spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais
Bonjour,
rien appris,
vous êtes sur Atomic Mac, émission de Sortir du Nucléaire, Drôme Ardèche sur Radio Méga. Avec un vendredi, c'est un peu notre journée, une journée exceptionnelle pour nous, pour une reprise d'émission, puisque nous devions la faire lundi et suite à une panne technique à la radio, eh bien nous avons reculé notre émission. Mais nous sommes toujours en direct et nous allons recevoir aujourd'hui Guillaume Blavette du collectif Stop EPR, ni à Penly ni ailleurs, en Haute-Normandie, suite à une plainte déposée contre EDF et une condamnation d'EDF, ce qui est assez remarquable, suffisant pour en parler en tout cas. Mais avant de recevoir Guillaume, la parole à notre billettiste Georges, qui va nous parler, comme d'habitude, de Fukushima.
Voilà, comme d'habitude. Alors bonjour, chères auditrices et auditeurs. Voici une analyse d'un article de Cécile Azanouma Bricot, sociologue, sur la gestion des flux migratoires par un état nucléariste, le Japon, dans un contexte de catastrophe nucléaire. Le gouvernement japonais a fait état de 160 000 personnes déplacées, dont 100 000 à l'intérieur du département de Fukushima et 60 000 à l'extérieur. À la suite de la politique de retour à vivre dans les territoires en grande partie contaminés, l'estimation officielle est aujourd'hui de 140 000 personnes réfugiées, dont 100 000 à l'intérieur de ces zones et 40 000 personnes à l'extérieur. Ces chiffres sont le fruit d'un enregistrement très contraignant auquel une partie non négligeable des habitants n'a pas voulu se plier. La population est donc notablement plus nombreuse que celle donnée par les statistiques officielles. Comment le Japon a-t-il géré ses réfugiés du nucléaire? Quelles sont les logiques internationales et nationales à l'œuvre derrière les politiques publiques dans la gestion des réfugiés du nucléaire? Quelles sont les logiques internationales et nationale à l'œuvre derrière les politiques publiques dans la gestion des réfugiés du nucléaire. Voici des tentatives d'explication. Il y a d'abord des paradoxes qui ont suivi la catastrophe de Fuku, à savoir la multiplication des accords internationaux entre la France et le Japon sur le plan nucléaire. Pour citer Mitsubishi et Areva notamment. Pour la construction de nouvelles centrales nucléaires et l'exploitation de nouveaux gisements d'uranium, surtout en Asie. En plus, au cours de la conférence de décembre 2012 à Fukushima, cette conférence ministérielle sur la sécurité du nucléaire, des représentants du monde entier y ont promis le développement de centrales désormais sûres et sans danger. Résultat, la décision politique de poursuivre et de développer l'énergie nucléaire était prise au niveau international, requérant dès lors un retour à la normale des plus prompts et à moindre coût. D'où les outils élaborés par ICRP, basés sur les notions de dose collective et des analyses coût-bénéfice, c'est-à-dire une valeur économique ayant été attribuée à la vie humaine, le calcul du coût de sa protection permettant de déterminer la rentabilité ou non de la mise en place de cette protection. Ceci reste sans commentaire. Dans ce contexte, trois phases de politique de flux des populations se dégagent. La première phase. Répondre à l'urgence suite à la catastrophe par la mise à la disposition gratuite du parc de logements publics provisoires bâti en partie sur des zones contaminées. Après l'échec notoire de la décontamination et les mesures fausses de certains postes, l'État décide de se déresponsabiliser au profit des collectivités locales, laissées sans moyens, d'où un retard important dans les plans de reconstruction. Il en ressort une double manipulation. Car outre une reconstruction fictive, donc peu coûteuse, la population est incitée à retourner à vivre dans le département de Fukushima pour suivi statistique et scientifique sans prise en charge réelle de leur protection. La phase 2, déresponsabiliser toujours l'État, signifie transférer cette responsabilité aux individus eux-mêmes contraints d'adapter leur vie à un environnement contaminé ou à s'exiler sans contrepartie. Pas d'aide matérielle ou financière à ceux et celles qui souhaiteraient pour partir hors du territoire. Pour mémoire, la politique d'appel au retour s'est poursuivie avec la réouverture d'une partie de la zone à la fin du mois de mai 2013. En avril 2011, le gouvernement avait fixé une zone d'évacuation de 20 km. Cette zone a été redécoupée en trois zones spécifiques. La zone de retour, où il y a plus de 50 000 civières par an. La zone de résidence limitée, de 20 à 90 millisieverts par an, et la zone de préparation à l'annulation de la directive d'évacuation, en deçà de 20 millisieverts par an, et enfin la zone de réglementation spéciale, qui concerne 9 communes autour de la centrale. Cette zone a été supprimée. En fait, cette deuxième phase se caractérise par le fait qu'une population fragile est réinsérée, par appel, dans un territoire contaminé, sous prétexte de leur souffrance psychologique, en tant que réfugiés, cette souffrance étant générée par l'éloignement de leur pays natal. L'autre caractéristique est la résilience, c'est-à-dire des modèles permettant aux villes de résister face au péril, à l'heure face aux périls naturels non maîtrisés, notamment le tremblement de terre. La phase 3, il s'agit de contrôler les mouvements de population par la communication sur le risque. Suite au stress engendré par les mesures de protection, à savoir les piscines, le port du masque, les utilisations limitées des cours d'école, qui génèrent des désordres psychiques, il faut voir donc le professeur Machika, à aucun moment le fait que ce sont des conséquences à l'impossibilité de quitter des zones contaminées n'est évoqué. Résultat sur 2014, une politique de communication avec 2 millions d'euros de budget visant à éduquer les citoyens aux risques sanitaires est instaurée avec manuel atelier sur la radioactivité. Il en ressort donc que la logique n'est donc pas de mettre en place une protection suite à un désastre au moyen d'outils publics de protection sociale, mais de détourner ces derniers au service d'une décision politique d'un État, le Japon, ayant opté pour la poursuite de l'industrie nucléaire sur son territoire.
Merci Georges, un petit peu long Georges.
Merci.
Non, mais peut-être pour rappeler quand même qu'on fête l'anniversaire de il y a juste un an, le dernier réacteur japonais était fermé et que la population, sa mobilisation, etc., ont poussé 40% de moins de production d'électricité suite à des mesures de sobriété, d'efficacité, etc., ce qui montre qu'un pays peut fonctionner sans l'énergie nucléaire. Maintenant, notre équipe a fait un petit montage à partir d'une émission sur les docks. On va vous le passer tout de suite.
Lors de l'émission Sur les docks du lundi 22 septembre de 17h à 18h sur France Culture, des enfants originaires de la plaine du Rhône, au pied du Pilat, interrogent différents adultes sur la contradiction entre l'existence du parc naturel du Pilat et la proximité de différentes usines dangereuses, dont la centrale nucléaire de Saint-Alban. La présence de ces usines ont conduit à classer la zone en zone à risque industriel majeur. Les enfants ont visité la centrale nucléaire et ont reçu une information d'EDF partielle et partiale qui mérite quelques compléments. Pour élaborer ce billet, nous avons donc repris l'information d'EDF donnée par une cadre de l'entreprise, qui sera ici interprétée par Jeanne, les questions et réponses des enfants, qui seront interprétées par Vanessa, et pour établir une réelle information, nous faisons intervenir un monsieur de sortir du nucléaire, interprété par Dominique, comme s'il s'adressait à ses enfants d'une école primaire.
Dans les centrales nucléaires, on fait chauffer l'eau sans feu, sans flamme et avec un minerai qui commence par un U. C'est l'uranium. Une centrale nucléaire, c'est simplement une usine qui fabrique de la vapeur pour faire tourner des turbines, pour faire tourner un aimant dans une bobine de cuivre. Le combustible, ce sont des pastilles d'uranium qui pèsent 7 grammes et représentent beaucoup d'énergie. Les pastilles sont rangées dans de grands tubes vides d'une hauteur de 4,50 m qu'on appelle des crayons. Mais ce n'est pas des crayons pour écrire, ils sont assemblés pour constituer l'assemblage combustible qu'on met dans la cuve du réacteur. Pour le moment, tout va bien. De quoi on se passerait dans une centrale? Vous ne savez pas? De la radioactivité. C'est quoi la radioactivité? Eh bien, la radioactivité, c'est naturel. Il y en a tout autour de nous et même dans notre corps. Quelle est la différence entre la radioactivité dans notre corps et la radioactivité présente dans les centrales?
Il y en a beaucoup plus dans les centrales.
Très bien. Et oui, c'est la quantité, c'est comme tout, c'est comme le chocolat. Une petite quantité, 3 barres, ça n'est pas dangereux. Mais si tu en manges 25 kilos, ça ne va pas bien aller. Une grosse quantité, il faudra s'en protéger. C'est pourquoi la cuve du réacteur est dans le gros dôme de béton pour que la radioactivité ne parte pas dans la nature en cas d'accident.
Oh, voilà un beau discours. Mais s'il y a beaucoup d'uranium, on pourrait se demander, mais d'où il vient cet uranium ? Les mines d'arlite au Niger, en Afrique, ont fourni dans les années 70 l'essentiel de l'uranium français. Le maire d'Arlite, qui est venu à Valence au printemps 2014 pour rencontrer les Français, qui bénéficient de l'électricité, nous a expliqué que lui, il vit dans un territoire contaminé par l'uranium, sans le savoir, parce que les sociétés françaises qui ont exploité ces mines ont toujours dit qu'il n'y avait aucun danger. La cadre d'EDF vient de comparer le chocolat et la radioactivité pour nous expliquer que c'est quand on en abuse qu'il y a problème. Mais le chocolat, c'est moi qui décide de le manger ou pas, d'en manger de trop ou pas de trop. L'exploitation des centrales nucléaires a été décidée par les différents gouvernements depuis 50 ans, sans débat, sans référendum, alors qu'il y avait de fortes oppositions dans la population et chez les scientifiques.
Mais pourquoi on met des usines dans le parc du Pilat ?
On a mis en place les centrales nucléaires parce qu'on a besoin de l'électricité. C'est une bonne région de construction, sûre, ce n'est pas dangereux et il n'y a pas de pollution atmosphérique.
Ah bon, pas de pollution atmosphérique. Mais il y a eu des écoulements accidentels par l'intermédiaire du réseau d'évacuation des eaux pluviales. Et où est-ce qu'elles vont ces évacuations ? Dans le Rhône. Donc EDF pollue le Rhône. EDF pollue aussi l'air avec les rejets naturels de sa centrale.
Mais ça explose les centrales ? Et si ça explosait, ça irait jusqu'où ?
On ne construit pas des centrales pour qu'elles explosent. C'est comme une voiture, tu ne te demandes pas quand elle va prendre feu. On fait en sorte qu'il n'y ait pas d'accident. Mais il n'y a pas de risque zéro. Personne ne peut dire qu'il n'y aura pas d'accident. Il faut rester humble. S'il y avait un accident, il y aurait rejet de quelques effluents radioactifs dans l'environnement. Par exemple, l'iode radioactif. C'est pourquoi tous les gens, dans un rayon de 10 km, ont des comprimés d'iode à prendre si quelque chose se passe.
Mais il y aurait des conséquences sur la nature aussi ?
Il y aurait des rejets maîtrisés de radioactivité. Après dilution, les éléments tombent par terre et 10 km autour de la centrale, il ne faudrait pas manger les fruits et légumes pendant un certain temps, le temps que la radioactivité diminue ou qu'on l'enlève.
Ah, mais voilà une information qui aurait beaucoup plu aux Japonais et aux Ukrainiens. Malheureusement, au début de la construction de nombreuses centrales nucléaires en France en 1974, il y a donc 40 ans pour que la population l'accepte, EDF n'était pas si humble que ça, et affirmait qu'une centrale nucléaire ne peut pas exploser comme une bombe, qu'elle ne pollue pas, que naturelle ou artificielle, la radioactivité a les mêmes effets. C'est depuis l'accident de Fukushima que l'autorité de sûreté nucléaire, qu'on appelle ASN, dit qu'il faut se préparer à des crises graves et durables. Mais les hommes politiques, eux, continuent comme si de rien ne s'était passé. La radioactivité, c'est invisible. C'est dangereux pour les personnes qui y sont soumises, et comme ça reste dans l'environnement, dans l'air, dans l'eau, c'est dangereux pour les générations futures. La radioactivité, ça ne s'enlève pas. Quand il y a un accident, on ne peut pas dire que les rejets seront maîtrisés. À la centrale de Fukushima, 3 ans après, il y a toujours des rejets d'eau radioactive dans l'océan.
75% de notre électricité en France est d'origine nucléaire. Chaque fois qu'on fabrique quelque chose, il y a des conséquences. Les avantages du nucléaire, c'est très puissant, ça ne pollue pas l'air, il n'y a pas de fumée. L'inconvénient, c'est la radioactivité. L'eau et le vent ne polluent pas, mais les énergies qui se servent de l'eau et du vent ne sont pas assez puissantes et pas disponibles tout le temps. Or, l'électricité, ça ne se stocke pas, donc on est obligé d'avoir des centrales nucléaires.
Alors là, la cadre de l'EDF a raison sur au moins un point. L'inconvénient du nucléaire, c'est bel et bien la radioactivité qui est présente quand on extrait l'uranium, quand on le transporte, quand on fait de l'énergie nucléaire avec, mais aussi dans les déchets, quand on doit par exemple enlever le combustible pour en mettre du neuf. Et les déchets ? Eh ben, on ne sait toujours pas quoi en faire. 75% de l'électricité en France est d'origine nucléaire. Mais heureusement, tous les pays ne suivent pas ce même schéma. L'Allemagne, par exemple, a décidé en 1998 de sortir du nucléaire. Elle a développé considérablement ses efforts sur les économies d'énergie, par exemple en isolant les maisons pour ne pas dépenser trop de chauffage, mais aussi en construisant des appareils qui consomment peu d'énergie. L'Italie, par un vote populaire, a décidé de refuser le nucléaire et d'arrêter les 3 centrales qui étaient dans ce pays-là. L'Espagne fait aussi d'énormes efforts. L'Allemagne, par exemple, a développé des énergies renouvelables, éolien, solaire, hydraulique, géothermique. Elle s'était engagée à diminuer de 21% ses émissions de gaz à effet de serre en 2020. Eh bien, elle a réalisé cet engagement en 2013, 7 ans avant. Et elle s'est engagée maintenant à diminuer de 40% en 2020. Il y a eu de nombreuses créations d'emplois suite à ces énergies renouvelables, au travail sur ces énergies renouvelables. On n'est donc pas obligé de construire des centrales nucléaires. Et si l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ont pu sortir du nucléaire, eh bien la France, elle peut le faire aussi.
Jingle baby, stay up all night with the things you can do. You won't buy your mind the potential you'll be, that you'll never see the promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of day. Do what I say and I'll make it okay. I'll drive them away, the images stuck in your head. And people you've been before that you don't wander around anymore. They push and shout and won't bend to your will. I keep them. Baby, look at the stars. I kiss you again between the bars, where I'm seeing you there with your hands in the air, waiting to finally be caught. Drink up one more time and I'll make you mine. Keep you apart, deep in my heart, separate from the rest, where I like you the best, and keep the things you forgot. And people you've been before that you don't want. I won't bend to your will, I keep them still.
Eh bien, vous êtes toujours sur Atomic Mac, après cette très belle chanson d'Agnès Sobel. Nous sommes en ligne avec Guillaume Blavette. Est-ce que tu m'entends, Guillaume ?
Oui, bonjour Dominique.
Écoute, bonjour Guillaume. Alors, Guillaume Blavette, tu appartiens à un collectif qui s'appelle ni Stop EPR, ni à Penly, ni ailleurs. C'est un collectif haut normand, bon, un peu éloigné, c'est pour ça qu'on est avec toi par téléphone. Et on a décidé de t'appeler puis pour faire le point avec toi, puis avec ton collectif, d'une plainte qui a été déposée contre EDF et dont on vient d'avoir le résultat le 10 septembre 2014, qui condamne EDF. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de cette histoire? Pourquoi cette plainte? Qu'est-ce qui s'est passé sur Penly?
Oh bah, pour aller très très vite, donc nous sommes une association anti-nucléaire, comme vous, Androma Ardèche. Hein, nous, on existe depuis 2009. Et en 2011, nous avons pu intégrer la commission locale d'information, qui est une instance de concertation qui est installée par les pouvoirs publics.
Oui, ce qu'on appelle les CLI, hein, c'est ça. Hein.
Ouais, voilà, les CLI. Exactement, et donc nous suivons de ce point de vue l'activité des centrales. Et donc on a pu avoir l'information très tôt, dès octobre 2012, qu'il y avait des pertes dans l'environnement de tritium. On a enquêté, on a discuté avec nos copains syndicalistes qui sont dans la centrale. Et vu que les éléments étaient importants, ben, nous avons contacté l'ASN. Ce qui est important dans ce dispositif.
Alors la SN, c'est l'autorité de sûreté nucléaire, hein, c'est ça, c'est la police du nucléaire. Quoi.
Moi, je jargonne. Voilà.
Voilà, non mais c'est bon, je suis là pour ça.
Et donc, en février 2013, une inspection de l'autorité de sûreté nucléaire a lieu sur le site qui met en évidence qu'il y a bien des fuites et qui met en évidence les origines de ces fuites. Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant, puisque, comme nous l'avaient dit les copains de Sud Énergie en particulier, ce sont bien des défauts de maintenance et une usure donc de l'installation nucléaire qui a entraîné les fuites. Des puisards qui sont sur le fond du bâtiment réacteur ne sont plus étanches, et donc l'eau contaminée qu'ils sont censés stocker a finalement est passée dans l'environnement. Et donc à partir de ces éléments et de données que l'ACRO, l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, qui est par chez nous l'équivalent de la CRIRAD chez vous, hein, c'est un labo indépendant qui fait des mesures, hein, qui permet d'évaluer l'impact des installations nucléaires. Donc à partir de l'inspection de l'ASN, des éléments de mesure de l'ACRO, et on a eu l'idée de porter plainte. Et là, il y a eu une espèce de boule de neige, puisque nous sommes membres du réseau Sortir du Nucléaire, donc on a eu l'aide du réseau, hein, de Marie Frachis, la juriste, hein, Maître Benoît Busson a porté l'affaire. Et donc notre association, le réseau, ainsi que France Nature Environnement, la Fédération Nationale des Associations de Protection de la Nature et de l'Environnement, et la Fédération Locale Haute-Normandie Nature et Environnement, ont porté plainte en mars 2013.
Alors si je comprends bien, cette plainte elle porte sur deux aspects. L'un sur la fuite anormale de tritium. Peut-être qu'on pourra rappeler un peu ce que c'est que le tritium et ce qu'il représente comme danger. Mais l'autre aspect de la plainte, c'est aussi le fait que EDF n'avait pas déclaré, comme c'est prévu, en temps et en heure en tout cas, n'avait pas déclaré à l'autorité de sûreté nucléaire cette fuite.
Alors, on est face à une réglementation très très particulière en France que l'exploitant nucléaire essaie de contourner, et c'est bien pour ça qu'on porte plainte. Donc, les associations écolo et les antinucléaires, on a porté plainte sur deux points, c'est-à-dire le non-respect de la réglementation nucléaire et la pollution de l'environnement. De son côté, l'autorité de sûreté nucléaire a déposé des procès-verbaux d'infraction. Et là a commencé un travail de négociation avec le parquet de Dieppe, qui au final n'a retenu que les chefs d'accusation mis en évidence par l'autorité de sûreté. Et donc néanmoins, nous avons poursuivi la démarche en justice, même si le parquet n'a pas entendu stricto sensu notre principal objet d'indignation, c'est-à-dire la pollution de l'environnement. L'affaire a été jugée en juin 2014 au tribunal de Dieppe. Et là, ça a été assez extraordinaire, puisque Maître Picmal, hein, son nom est public, je peux le citer.
Hein, on peut y aller, oui.
Allô ?
Oui, je dis oui, on peut citer, il n'y a pas de problème.
donc Maître Picmal a, en substance, je caricature un peu, mais je suis pas loin de la vérité, dit que ça suffisait, si les associations écolo et antinucléaires se mettaient à porter plainte à chaque fois qu'il y a un écart, alors je mets les guillemets au mot écart, parce que c'est l'expression qu'il a employée, EDF ne déclarerait plus. Ce qui a eu la vertu de beaucoup énerver le substitut du procureur et le juge. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'en septembre, et comme tu le disais tout à l'heure, à notre grande surprise, EDF a été condamné pour les deux chefs d'accusation retenus par le parquet, et à une amende qui peut paraître modique, mais qui, de notre point de vue d'association antinucléaire, est un vrai acquis, c'est-à-dire qu'il a été condamné en tout à 13 000 euros d'amende. Malheureusement, et nous le regrettons, pour la première fois, hein, depuis que le réseau Sortir du Nucléaire a fait le choix d'avoir des actions juridiques structurées et permanentes, EDF fait appel.
Oui.
Voilà. Donc nous en sommes là. Là, nous sommes face à une procédure d'appel. Et donc on recommence tout avec notre avocat, Marie Frachis, Ça nous coûte de, ça coûte de l'argent concrètement.
Ça coûte de l'argent, mais en même temps, ça permet de mettre finalement cette pollution au tritium devant un peu le public, et c'est peut-être pas plus mal finalement. C'est aussi un peu le but des actions juridiques, j'imagine, de votre côté.
Alors ça c'est très très important, parce que pendant longtemps les gens ont cru que les antinucléaires, on disait n'importe quoi, que rien n'était fondé, et cette stratégie juridique donne à voir que la justice nous donne raison. Hein, à Golfech, Civeau, Buget, Tricastin...
Alors, Guillaume, ce que je vais te proposer, c'est justement, on va parler un petit peu, parce qu'on est très concernés, nous, justement, parce qu'on a une plainte identique en Drôme et Ardèche, c'est que tu restes en ligne, on passe une petite chanson qui s'appelle « L'âge du nucléaire » de La Rue qui est à nous, et je te retrouve juste après pour qu'on parle justement de ces procédures juridiques et de leur utilité. À tout de suite.
Au programme ce trimestre, l'âge nucléaire, quand vivaient nos ancêtres sur la planète Terre, avec leurs allumettes et leurs manteaux de fourrure, leur réseau internet et leur pot de confiture. Sur un sol divisé en plusieurs parcelles, ces hommes-là descendaient de la tour de Babel. Bien qu'ils eurent le même ciel, ils étaient jamais d'accord pour élire sa sentinelle, son nom et son folklore.
Ça avait encore du poil aux pattes quand ils ont tout fait sauter, mais je me souviens pas de la date. Papa, est-ce que tu la connais?
Les riches traitent aux riches ce que les pauvres prenaient aux pauvres. Il y avait des hommes sandwich dans la gamelle des fauves. De l'eau il en pleuvait, mais pas pour tout le monde. Le climat se réchauffait, chacun voulait la bombe. Ils roulaient en bagnole et les bagnoles au super. Mais ça manquait de pétrole à part dans l'atmosphère. Au bord de la faillite, ils s'étripèrent entre eux. C'était sans doute la suite de la guerre du feu.
Ça avait encore du poil aux pattes quand ils ont tout fait sauter. Mais je me souviens pas de la date. Papa, est-ce que tu la connais?
Rasaient les forêts, ils plantaient des OGM. Leurs pétroliers se vidaient dans la gueule des baleines. Un géant au pied d'argile mettait les pieds dans le plat. Il y a des traces à Tchernobyl et à Fukushima. Vivant le prochain trimestre au programme l'âge de pierre, avec les peintures rupestres et les grands mammifères. Faudrait qu'on les chassait juste avec une lance. Que de l'eau il en pleuvait, on avait bien de la chance.
On avait encore du poil aux pattes quand on a fait sauter.
Mais je me souviens pas de la date. Papa, est-ce que tu la connais? Ils avaient encore du poil aux pattes quand ils ont tout fait sauter. Mais je me souviens pas de la date. Papa, est-ce que tu la connais?
Toujours sur Atomic Mac, l'émission de sortir du nucléaire de Drôme Ardèche. Nous sommes avec Guillaume Blavette du collectif Stop EPR, ni à Panly ni ailleurs. Alors Guillaume, tu es toujours là?
Oui, bien sûr.
Ben, c'est parfait. On parlait donc justement de ce procès. Il y a un débat dans le mouvement antinucléaire sur l'utilité de remplacer l'ASN, parce que c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui devrait déposer des procès-verbaux et ensuite, un peu comme l'inspection du travail, poursuivre devant les tribunaux lorsqu'il y a des infractions. Or là, de fait, manifestement, l'ASN ne fait pas complètement son travail, les procureurs non plus, et il faut qu'il y ait le mouvement antinucléaire. Et quand on voit la condamnation, deux contraventions de 3 750 euros, c'est-à-dire 7 500 euros, plus 3 000 euros de frais de justice, c'est-à-dire 10 000 euros. Bon, pour EDF, c'est une goutte d'eau, quoi. Alors, est-ce qu'il faut continuer à faire cette stratégie de harcèlement judiciaire? Est-ce que, de votre point de vue, c'est utile, quoi?
Bon, il faut pas confondre deux choses. Un, à l'ASN, comme à l'inspection du travail, comme dans beaucoup de corps d'État, il y a plein de gens de bonne volonté très compétents. Moi-même, je suis enseignant. Et je ne fais pas ce que je veux et ce que je pense nécessaire vis-à-vis de mes élèves. Et l'ASN, c'est la même chose. Hein, l'ASN, je dis souvent que c'est une grosse limace. Elle n'a pas d'yeux, elle n'a pas de bouche, elle n'a pas de bras, mais elle existe. Et donc, toute la stratégie pour les antinucléaires, c'est de s'appuyer sur les inspecteurs de l'ASN qui font bien leur boulot et d'envisager avec eux une stratégie gagnant-gagnant. C'est-à-dire que pour nous, l'action en justice permet d'attester les pollutions dont le nucléaire est responsable. Parce qu'il faut savoir qu'avec le nucléaire, la catastrophe, elle est quotidienne. Là, on parle du tritium, qui est un produit qui existe en très très faible proportion dans la nature, mais qui est rejeté en masse par les installations nucléaires, les centrales, mais surtout, dans ma région, par l'usine de retraitement de la Hague. C'est une matière vraiment insidieuse. Elle est, entre guillemets, digérée par les organismes vivants, et elle fait péter les chaînes ADN, je caricature un peu, mais c'est ça.
Oui, puis elle est d'autant plus dangereuse, en plus, que plus elle est ingérée, plus elle devient dangereuse, quoi. C'est-à-dire que plus on mange un animal qui a eu, par exemple, du tritium, plus le tritium devient dangereux.
Exactement. Voilà. Et ça impacte toute la chaîne alimentaire, les plantes, les poissons. Et donc, c'est un sujet d'indignation très ancien, du mouvement antinucléaire, et on réclame que ces rejets diminuent. Mais l'ASN, elle, est consciente du problème, mais le législateur, puisque l'ASN n'est jamais qu'une autorité publique dont les missions sont définies par l'État, n'a pas les moyens juridiques pour aller jusque là où elle voudrait aller, en tout du moins, les gens les plus sincères qui travaillent dans cette autorité. Et donc, on vient suppléer aux déficiences de la loi. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, hein, puisque la loi de transition énergétique est en débat à l'Assemblée nationale, c'est que tous ces aspects très importants qui ont pour ambition de protéger l'environnement, mais aussi la santé publique, hein, parce qu'on parle bien de santé publique avec le tritium, eh bien, ça passe encore à la trappe. Hein, on a une loi qui est très, très en deçà de ce que nous attendions dans le mouvement antinucléaire et ce qui est en deçà des revendications de l'ASN. L'ASN ne dispose pas des outils réglementaires et législatifs pour faire son boulot comme il serait nécessaire.
Oui, bien ça, c'est un constat qu'on a fait aussi sur un autre sujet, mais dont on parlera bientôt d'ailleurs sur notre émission sur les transports, où on n'a même pas donné pour le coup l'autorisation à l'ASN de vérifier les itinéraires, etc. Il y a Georges qui voulait poser une question sur les suites de cette plainte par rapport à EDF.
Oui, bonjour, Georges Griot de Sortir du nucléaire de Romardèche. Très rapidement, simplement j'aimerais savoir les moyens investis par EDF pour rétablir les puiseurs.
Pour les rétablir dans leur état, suite à la...
Oui, suite à la condamnation, quoi. Au-delà des amendes.
Alors, il se trouve que, entre le dépôt de plainte et le jugement, que la visite décennale pour les 20 ans a eu lieu. Donc, EDF nous a juré en crachant par terre, enfin Maître Picmal, qu'ils avaient rectifié, qu'ils avaient réalisé les travaux nécessaires. J'attends de lire les prochains comptes rendus d'inspection de l'ASN pour voir si vraiment ça a été le cas. Et là, on touche à un autre problème du nucléaire, c'est que le nucléaire, pour l'essentiel, est soumis à simple déclaration. C'est-à-dire que EDF peut dire ce qu'il veut à l'ASN. L'ASN est simplement là pour enregistrer les déclarations d'ASN et constater si c'est conforme à la loi. l'ASN n'a pas vraiment d'avis technique à donner, même s'il n'en pense pas moins.
Oui, hein,
j'ai un bon copain qui était inspecteur de l'ASN qui a démissionné, il en avait marre d'être toujours censuré, de s'auto-censurer lui-même. Donc, l'EDF a déclaré avoir fait des choses, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais bien sûr, ils survalorisent hein, dans leurs déclarations pour donner à voir leur attachement à la sûreté, mais dans les faits, le problème structurel n'est pas réglé. Parce que si on remonte en amont, il faut savoir que dans ce réacteur nucléaire, le 5 avril 2012, il y a eu un accident grave, une motopompe primaire a grillé, je vais très vite, et ils ont perdu un quart du réfrigérant primaire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que comme les puisards étaient défectueux, ça a percolé dans l'environnement, c'est passé dans la nappe phréatique, la nappe de la craie qui est sous la centrale, et que même si aujourd'hui EDF fait des travaux pour que ça ne se reproduise plus, l'importance de la contamination est telle qu'il y a sujet à s'inquiéter, puisque malheureusement, nous ne disposons pas des outils de mesure, c'est-à-dire des piézomètres hein, concrètement, pour évaluer la dispersion de cette pollution depuis avril 2012. Et nous craignons que ce soit allé jusqu'à des captages qui sont utilisés pour l'alimentation en eau des villages qui sont autour de la centrale.
Bon. Donc, on voit, Guillaume, que vous avez largement encore du travail à faire autour de Penly. Ça nous fait penser beaucoup à ce qui se passe chez nous à Tricastin. je suis désolé, mais on va être forcé de couper, d'interrompre nos trucs. Une dernière petite question qui appelle une réponse très très rapide. Quid de l'EPR, le fameux EPR de Penly? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous pouvez nous donner rapidement une petite nouvelle? Est-ce que c'est définitivement abandonné? Est-ce qu'il aura lieu, etc.?
Vous inquiétez pas, chers amis, il est simplement suspendu. Hein, pour ce que nous en savons, hein, de sources internes à EDF, les travaux commenceront en 2020.
Oui, d'accord.
Donc, ils attendent de voir si Flamanville tourne pour passer à la réalisation de ce qu'ils appellent une série. Parce que c'est bien le projet d'EDF, c'est un renouvellement du parc nucléaire pour rester dans ces fameux 63,2 gigawatts qui vont être inscrits dans la loi. EDF a la permission de compenser la fermeture des réacteurs nucléaires qui sont promis de manière caricaturale par la majorité en place, et on risque de voir fleurir au cours des 10 ans à venir d'autres projets EPR.
Voilà. Eh bien,
c'est un vrai risque.
On invitera les Dromois à venir manifester avec vous lorsque ce sera nécessaire pour lutter contre cet énorme gouffre afrique et radioactif qu'est l'EPR, le futur EPR de Penly.
Déjà à la radio que là dans 10 jours, on va dans la Manche rejoindre nos amis du Crillan et on va commencer à organiser un événement pour 2016. Et tout le monde sera le bienvenu, même si c'est un peu loin de chez vous, je le conçois. Mais avec Didier Angers, hein, on a conscience des enjeux et on veut organiser cette mobilisation, puisque décidément, les politiques traitent le nucléaire par-dessous la jambe et il faut que le mouvement anti-nucléaire soit puissant en France pour rappeler quelques évidences.
Je te remercie beaucoup, Guillaume. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.
Eh ben,
nous passons
à, bientôt, merci à, vous.
À notre agenda. Au revoir.
Au revoir.
Salut à tous, c'est l'agenda du vendredi 10 octobre 2014 par Sortir du nucléaire en Dromardèche. Donc ce mois-ci, assez peu de manifestations, toutefois nous avons toujours les manifestations rituelles du samedi matin à Valence, place Porte-Neuve de 11h à 12h30, avec la présentation de la carte PPI. Nous exposons à la population la carte des sites nucléaires de la région, ainsi que les zones concernées en cas d'accident, et ça peut être l'occasion de discuter avec nous de ces sujets tout de même assez important. Tous les dimanches, dirons-nous au nucléaire, donc c'était cette action du dimanche, où vous êtes invité à venir manifester votre opposition à l'industrie de l'atome devant votre mairie. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire de votre côté, voilà, seul, ou avec des amis ou de la famille, après tout, c'est dimanche. La réunion mensuelle de sortir du nucléaire en Dromardèche aura lieu le 27 octobre à 18h30 au local de la Frapna, avenue de Verdun. Et à part ces manifestations habituelles, vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à plusieurs actions proposées par des associations amies. Notamment, le réseau Sortir du Nucléaire propose sur son site www.sortirdunucléaire.org/loi-transition une pétition qui s'appelle « Pas de transition énergétique sans sortie du nucléaire ». Cette pétition est proposée dans le cadre du débat sur la loi de transition énergétique qui a lieu actuellement au Parlement. Vous pouvez également participer à l'action proposée par la FRAPNADROM qui s'appelle Coup de pompe d'Areva. Alors je vous explique rapidement, en fait Areva a demandé une autorisation pour pomper de l'eau dans la nappe du Rhône pour la rejeter dans le cours d'eau qui s'appelle la mer Girarde. L'idée de ce projet étant d'éviter que les polluants présents dans la nappe sous le site de Tricastin ne migrent vers d'autres masses d'eau voisines. Donc la FRAPNA appelle vos contributions dans le cadre de l'enquête publique qui est en cours dans le cadre de cette demande d'autorisation d'Areva. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de la FRAPNA si vous souhaitez apporter vos contributions donc dans le cadre de cette enquête publique. Le site de la FRAPNA, www.frapna-drome.org. Je répète, www.frapna-drome.org. Voilà, merci à tous et au mois prochain.
Eh bien, merci pour cet agenda, Céline. Je vous rappelle que vous pouvez contacter Sortir du Nucléaire Drôme Ardèche et notre émission de radio sur le répondeur au 08 05 69 67 58 au prix d'une communication locale comme c'est écrit sur mon petit mot. Vous pouvez aussi aller sur le site de Sortir du Nucléaire Drôme Ardèche, bien entendu. Cette émission a été réalisée par Céline et Jean-Pierre à la technique. Céline qui cumule en plus puisqu'elle a également rédigé et fait l'agenda. Georges pour son billet, Vanessa, Jeanne et Dominique pour notre petite pièce suite à l'émission de France Culture, et Dominique et Guillaume Blavette de la Haute-Normandie pour notre entretien sur le Surpanlis et la pollution au tritium. Voilà, nous vous souhaitons, notre émission reprendra le premier lundi du mois de novembre et nous vous souhaitons une belle journée à tous et toutes.
Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'en porteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. La force de la France, c'est l'esprit des Lumières, cette petite flamme au cœur du monde entier, qui éclaire toujours les peuples en colère, en quête de justice et de la liberté. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'en porteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement.
Parce qu'ils ont un jour atteint l'universel, dans ce qu'ils ont écrit, cherché, sculpté ou peint, la force de la France, c'est Cézanne et Ravel, c'est Voltaire et Pasteur, c'est Verlaine et Rodin.
Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'en porteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement.
La force de la France, elle est dans ses poètes qui taillent l'avenir au mois de mai des mots.
ouvrez leurs yeux de cendre, tranchez leur gorge ouverte, vous n'étoufferez pas le chant du renouveau.
Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes,